midi dans le bureau de Varjepiter. Guillaume rentre de reportage.
Juju, tu peux m'aider à enlever mes rangers, là, s'il te plaît?
Tes rangers?
Je crains pas une depuis l'aube, là. J'ai les jambes qui me rentrent dans le corps. Tiens, aide-moi, tiens.
Attends, depuis quand tu mets des rangers pour marcher dans Paris, toi?
Puis c'est quoi cette veste multipoche? C'est pour ressembler à Indiana Jones?
Non, mais ça fait sérieux, ça fait grand reporter baroudeur.
Oh là là. Mec, il aurait le corps du marsupilami.
Ouais, non, mais moi, je passe mes matinées sur le terrain, madame, d'accord?
Attends, le terrain? C'est comme ça que t'appelles les marchés du 16e arrondissement, toi?
Tiens, ce matin, au lever du soleil, j'étais à Belleville, en plein quartier sensible.
Et tu sentais l'odeur du napalm? Non, mais il est sérieux. Lui.
Bah t'as bien de la chance, parce que moi, au lever du soleil, j'étais déjà au bureau.
Toi, dès l'aube, tu t'installes dans le quartier le plus riche de Paris. Et quand tu le quittes, c'est pour rentrer dans ton petit quartier de Beauvau, alors forcément.
Tu parles du quartier qui est à 5 minutes de chez toi, Bob Moran?
Non, attends, moi je passe 12 heures par jour ici, hein. Ouais. À quelques mètres d'une grande rédaction, monsieur, qui est au cœur de l'actualité mondiale, et tous les jours.
Ouais, mais quand même, c'est un ghetto de riche. Moi, j'étais dans le popu, les PMU, les murs tagués, la diversité, voilà.
Et forcément, t'es passé inaperçu, fringué comme t'es, j'imagine.
Non, mais là, vous savez même pas où c'est Belleville, techniquement.
Alors,
donc,
techniquement, ouais, parce que Juju et moi, on a lu un livre là-dessus.
Vous avez lu quoi? Le guide du routard, le petit futé?
Non, un roman social qui décrit parfaitement le quartier, ses habitants, sa sociologie.
Il y a les bonnes adresses de resto dans ton bouquin aussi, c'est ça?
Eh ben, je sais pas, tu demanderas à l'auteur parce qu'on va l'inviter.
Ah ouais, c'est qui?
Dora l'exploratrice.
Ah, c'est une super amie à moi.
Bienvenue chez les petits artisans de la poilade. Voici la devise du jour. Rien ne sert de courir. Il faut écrire la devise à temps. Ouais. Juliette, allez-y. Le sommet.
En France, il y a 300 000 personnes sans domicile et plus d'un Français sur cinq est confronté à des difficultés graves liées au logement. Alors tous les mois, c'est la même rengaine qui recommence.
C'était qui? C'était le mec du loyer, il voulait qu'on paye. Tous les mois, il va nous casser les couilles celui-là.
Non contents d'être des barbares sanguinaires, les talibans sont aussi des quiches en économie. L'Afghanistan s'enfonce encore un peu plus dans la pauvreté, si c'était possible. Le tableau, après 6 mois de pouvoir, est dantesque.
Et que je t'apprends, et que je te rapide, et que je t'emballe, alors forcément, la rigueur, ça paye.
Et au Maghreb, mieux vaut en rire, hein, ouais. Au Maghreb et au Moyen-Orient, un vent de révolution des mœurs souffle dans les séries produites par les plateformes. Elles abordent les sujets tabous régulièrement censurés dans les films qui sortent au cinéma.
On se lâche, quoi, tout le monde à poil.
Voilà, c'était deux salles, deux ambiances, ces sujets, bien sûr. Et aujourd'hui, à mes côtés, c'est Juliette Arnaud, bonjour.
Bonjour Charline, et à nos côtés, en l'honneur de notre invité, une équipe aussi addictive qu'une série. Il y avait Arnold et Willy, j'espère lancer Arnaud et Wally. Ça serait l'histoire d'une femme blanche qui adopte un enfant noir. Bon, Wally trouve le pitch nul, mais je ne désespère pas de le convaincre. Bonjour Wally. Oh,
salut. On va reprendre toutes les bases de la présidentielle. Il y a du relâchement là.
Ça tombe bien parce que j'étais totalement perdue. Ensuite, celui qui est le Joséphine ange gardien de France Inter. Comme elle, il traite des sujets délicats de la société et quand tout le monde est bien énervé, il claque dans ses doigts et pouf, il disparaît. Bonjour Guillaume Meurice.
Bonjour tout le monde, c'est une amie à moi, Joséphine Gardien, bien sûr. Moi, je suis allé parler aux gens de Fabien Roussel, bien sûr, aujourd'hui, qui est accusé par Mediapart d'avoir été un employé fictif à l'Assemblée et qui est candidat à la présidentielle pour le Parti communiste.
Ce qui m'étonne, c'est qu'il y ait encore un Parti communiste en ce pays.
Oui, moi aussi, c'est vrai, c'est un premier bon point, je pense.
Enfin, celle qui a cessé de s'intéresser aux séries, pile le jour où, dans les années 80, Bobby Ewing a arrêté d'être mort dans Dallas, parce qu'en fait, c'était un mauvais rêve de sa femme Pamela. Alors là, elle a crié « Flaubert, il n'aurait jamais fait ça !» Bonjour Clara Dupont-Mono.
Bonjour Juliette, mais Madame Servie, qui était pas mal non plus. On va parler du livre de notre invité.
Oui, voici celle qui a eu l'inconscience d'accepter notre invitation. Je vous laisse annoncer à nos auditeurs que vous êtes...
Negar Djabadi.
Oui.
France Inter, Charline Van Necker, Juliette Arnaud.
Par Jupiter.
Bienvenue Negar Djabadi. Vous êtes écrivaine, scénariste et réalisatrice aussi. Et nous vous recevons aujourd'hui pour un ouvrage, un roman qui est sorti initialement en août 2020 et qui est paru récemment aux éditions Liana Levy dans la collection Piccolo parce que en version poche, et c'est une excellente nouvelle, car on a très envie de partager ce roman qui a fait forte impression dans l'équipe, Juliette.
Voilà, alors ce roman, alors si, puisqu'en France tout commence par c'est l'histoire d'un mec, on pourrait dire que c'est l'histoire d'un mec qui est un golden boy du 21e siècle, puisque c'est le patron français d'une plateforme américaine type Netflix, et il fait une sortie de route. Et dans un quartier qui n'est plus le sien depuis longtemps, un quartier sensible, comme on dit, alors par sensible, entendez entre la dent cariée et le bout soufré de l'allumette, et sa sortie de route, à lui, Benjamin Grossman, va en entraîner d'autres chez tout un tas de gens, plus ou moins à bout de nerfs, plus ou moins à juste titre d'être à bout de nerfs. Une jeune flic, un militant musulman, une adolescente qui filme à peu près tout, une monteuse de cinéma qui essaye de ne pas devenir cynique, et d'autres, beaucoup d'autres, qui n'ont rien en commun, sauf ce quartier qui va devenir une arène. C'est un quartier que vous connaissez bien, qui est à Paris, qui est compris entre quatre arrondissements.
Exactement.
Dans lequel vous vivez depuis un certain nombre de décennies. Pourquoi vous continuez à y vivre ?
Ah bah parce que c'est quand même un quartier où il y a c'est très populaire, et finalement moi j'aime bien ces quartiers populaires parce que en fait j'ai l'impression d'être quand même protégée parce que les gens se connaissent très très bien. Donc contrairement aux quartiers qui sont pas populaires où on est très protégé peut-être par la police ou par la tranquillité, mais les gens ne se parlent pas, là on est très bien en fait. Et puis par moments on n'est pas bien du tout parce que il y a beaucoup de violence. Mais voilà, c'est éclectique et moi ça me va. C'est oui. De l'énergie qu'il y a dans ce quartier, ça me va.
Je vous ai entendu dire que ce qui vous plaisait, c'est que Paris est une ville très homogène au niveau de son architecture, et que ce quartier précisément ne l'est pas du tout. Et non. Ça a nourri aussi l'écriture d'Arène.
Oui, alors il y a un côté très cinématographique dans ce quartier. On a l'impression un peu d'être dans Scorsese, dans Taxi Driver le soir, parce qu'en fait rien ne ressemble à rien. Comme il y a beaucoup de Chinois, donc il y a un éclairage qui est très au néon dans les restaurants chinois, très coloré. Après, d'un autre côté, il y a des restaurants africains. D'un autre, voilà, donc il y a une ambiance assez particulière.
Et alors, au-delà du quartier qui est dans votre livre, c'est la ville qui est presque un personnage de roman. Et on évoquait tout à l'heure dans le bureau Les Misérables de Victor Hugo, où Paris est quasiment de la même façon un personnage de roman. Est-ce que c'était votre volonté de faire de Paris un personnage du roman ?
C'était un peu mon pari. En fait, c'était mon pari sans S. Donc, je ne sais pas si je me suis dit, allez, je me lance ce pari-là. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je ne vais pas y arriver? Donc, oui, c'était le cas. Et donc, du coup, il y a énormément de personnages parce que c'est Paris, c'est quand même très dense. Donc, je me retrouve quand même avec plus de 100 personnages, je crois, à gérer. Et voilà, ça, c'était un peu plus compliqué. Mais oui, c'était ça.
Et est-ce que le pari, il est littéraire aussi? On se posait la question avec Lara, parce que nous, ça nous faisait penser à certains grands romans du 19e, ce qu'on appelle des romans totaux, comme il y a beaucoup chez Zola, où par exemple, quand il choisit de parler de la bourse, il va parler non seulement du quartier, mais aussi des tout petits actionnaires, comme des grands banquiers, c'est-à-dire essayer de se balader, faire un tour à 360 sur une idée, un moment de société.
C'était un peu ça, et en fait, on a beaucoup écrit sur Paris, on a beaucoup écrit sur les grandes villes aussi, hein, sur New York, etc. Et c'était toujours l'argent qui était au centre. Vous parliez de Balzac ou de Zola, voilà, c'était toujours l'argent ou la figure du trader qui était dans les romans américains. Et à un moment donné, je me suis dit, en fait, la figure du trader, aujourd'hui, ça serait qui ? D'où Benjamin Grossman ? Ce serait un dealer d'image plutôt qu'un dealer d'argent. Parce que finalement, aujourd'hui, l'image vaut l'argent. Et on peut devenir très célèbre avec une seule image ou avec un seul une vidéo sur Twitter. Donc finalement, je suis partie de là et j'ai pris un peu l'architecture de ces romans-là pour faire ça.
Voilà, parce que vous parlez d'une chose qu'on vit tous, parce qu'il n'y a pas une journée qui se passe dans nos vies où on se dit pas « Hey, t'as vu telle série ?» Justement, Benjamin Grossman, c'est ça, son métier, c'est de produire. Et la description que vous faites de ce monde-là, c'est entre le capitalisme de pointe, la secte, très clairement, et avec des axiomes de mafieux au milieu. À un moment, Benjamin se fait la réflexion qu'il pense comme Tony Soprano, qui dit à son fils « T'as beau être très proche de tes amis, à la fin, tu pourras pas compter sur eux, ils t'abandonneront. »
Mais oui, il y a un petit côté comme ça, je l'avais pas vu comme ça, vraiment. Secte, je l'avais pas vu.
Bah, c'est parce que les gourous de la Silicon Valley dont parle Juliette, c'est ça. Ils travaillent Grossman avec les gourous, il n'y a pas d'autre mot, de la Silicon Valley.
C'est ça.
Où il faut être hyper happy, où il faut qu'il y ait un bien-être qui circule, fluide. Et vous êtes viré si vous êtes malheureux.
Mais oui, c'est ça. Il y a les codes. Il faut respecter les codes qui sont presque les codes de la fiction. En fait, c'est ça qui est assez troublant, c'est que tout se mélange entre le travail et, enfin, entre la réalité et la fiction, et c'était tout le défi du roman, d'essayer de mélanger sans cesse qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, et comment la réalité immédiatement se transforme en fiction. Et d'ailleurs, Benjamin, pour lui-même, il est un personnage. Parce qu'il y a deux Benjamins, celui qui est à la tête de Bicurrent et celui qui est le fils de cette femme qu'il va voir. Donc il n'arrive pas non plus à faire très bien le tri entre
celui qui est issu de Belleville et celui qui habite dans le 5e arrondissement de Paris aujourd'hui. Ouais. C'est des personnages que vous observez par vos fenêtres, vous vivez au milieu d'eux en fait.
Mais exactement, donc c'était facile à écrire finalement.
Aucun mérite.
Un compliment en disant que ça évoque furieusement le bûcher des vanités.
Oui, on a pensé au bûcher des vanités et à The Wire aussi.
À The Wire aussi, eh ben disons.
Vous voyez,
j'ai bien fait
bien
venir. Hein.
Moi, j'avais pensé à Oui, oui, à Belleville.
Je ne vous le fais pas dire, Clara.
Ceci dit, le Parti communiste a quand même placé Colonel Fabien.
Ah, c'est vrai.
C'est vrai. Lieu aussi de tournage, c'est comme ça qu'il rentabilise le siège. Mais ça fait partie du livre, évidemment. Negar Djawadi, donc, votre roman s'intitule Arène. C'est paru chez Liana Lévy, c'est en poche, c'est la collection Piccolo. Jetez-vous dessus, et si vous n'êtes pas tout encore convaincu, ça m'étonnerait, mais Clara Dupont-Mono va venir tout à l'heure, et elle va achever de vous convaincre.
Achever tout court, d'ailleurs.
Bruxelles, ma belle, je te rejoins bientôt, aussitôt que Paris me trahit, et je sens que son amour est gris, et puis elle me soupçonne d'être avec toi. Le soir, je reconnais, c'est vrai, tous les soirs, dans ma tête, c'est la fête des anciens combattants d'une guerre qui est toujours à faire. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt, je prends la dérive. Michel, te rappelles-tu de la détresse, de la kermesse, de la gare de midi? Te rappelles-tu de ta Sophie qui ne t'avait même pas reconnue? Les néons, les léons, les noms de Dieu, sublime décadence, la danse des penses, ministère de la bière, artère vers l'enfer, place de Brouckère. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends la dérive. Cruel duel, celui qui oppose Paris névrose et Bruxelles aboutit, qui se dit que bientôt ce sera fini. L'ennui de l'ennui. Tu vas me revoir, mademoiselle Bruxelles, mais je ne serai plus telle que tu m'as connue. Je serai abattu, combattu, combattu, mais je serai venu. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends. Paris, je te laisse mon lit.
Bruxelles, attends-moi. J'arrive dès après le 21 avril.
Allons, allons, allons.
J'emmène avec moi Walidia, parce qu'il est noir.
J'emmène avec moi.
J'emmène avec moi Negar Djawadi, parce que, voilà,
parce qu'il est un peu belge.
Déjà, vous êtes franco-iranienne, donc il y a déjà une partie de vous qui part avec nous à Bruxelles. Et en plus, vous avez fait vos études de cinéma à l'INSAS à Bruxelles. C'était la version d'Alain Bachung, bien sûr. Juliette, pour entourer notre invité.
Il n'y a pas de chute après, il est noir.
C'est juste c'est gratos.
Moi, je l'ai laissé. Bref, donc, à nos côtés, Charline, la fine fleur de l'humour.
Parce que je suis universaliste, je ne vois pas les couleurs des
évidemment.
Gens. Je vais fini de parler.
Ah, pardon.
Donc, j'étais en train de dire la fine fleur de l'humour, Walidia, la fine fleur de la littérature, Clara Dupont-Monod, et la fine fleur du journalisme.
Ah ben, il n'est pas là aujourd'hui. Ça va être moi.
C'est bien parti pour faire encore pire que ce qu'on vient d'entendre.
Moi, vous savez, vous le slalom, les zigzags, c'est bien quand on va faire du ski. En politique, moi, c'est la ligne claire.
Le journal de la presse, 17h17.
Alors, si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce.
Et on commence par les titres.
Oui, dans ce journal, on parlera d'emploi fictif.
On parlera donc du travail de Clara dans sa maison d'édition.
Oui, on parlera aussi d'un week-end alcoolisé.
Ah, bah ça, c'est l'action de Juliette, hein, sans surprise, bien évidemment.
Et enfin, on parlera aussi de mauvais goût vestimentaire.
Donc, alors là, non, ça correspond à personne autour de cette table.
Moi, j'en vois.
Non, j'ai pas trouvé. Et on commence par la politique.
Oui, selon Mediapart, Fabien Roussel aurait occupé pendant 5 ans un poste d'assistant parlementaire fantôme.
Attendez, vous êtes certaine, parce que Charline, c'est pas le même Fabien Roussel qui en 2017, après l'affaire Fillon, disait ça?
Ce qui compte, c'est quand même de fournir un véritable travail quand une rémunération est prévue par la loi.
Oh, on dirait que c'est le même.
Bon, c'est bizarre quand même.
Ça m'étonnera, dites donc. D'ailleurs, le même Fabien Roussel était l'invité de la matinale d'Europe 1 et il a donné son avis sur la crainte des enfants d'immigrés.
J'entends l'angoisse de citoyens aujourd'hui qui sont d'origine étrangère, qui sont musulmans et qui ont peur d'être renvoyés chez eux.
Allez. Ben oui, chez eux, retournez donc en musulmanie, hein, chers citoyens d'origine étrangère. Ils ont peur d'être renvoyés chez eux.
Bonne ambiance, place du colonel Fabien. Voilà. Oui. Évidemment. Une randonneuse a été tuée hier par une chasseuse, ce qui soulève à nouveau la question d'autoriser ou non la chasse en France.
Oh là là, mais on peut plus rien dire, Charlie, on peut plus rien faire, là. On peut plus manger un beefsteak, boire du pinard, on peut plus tuer des randonneurs dans ce pays. C'est ça la France que vous voulez?
Qu'est-ce qui vous arrive, Guillaume, là, que...
Pardon, ah non, parce que j'ai embauché Fabien Roussel en co-auteur. Je vous dis, c'est pas un emploi fictif, hein, il bosse.
Bonne ambiance, colonel Fabien. Elisabeth Guigou et Marisol Touraine ont annoncé leur soutien à Emmanuel Macron.
C'est certain qu'il va la gagner, cette présidentielle 1995. On a demandé son avis à Claude Allègre, Jean Glavany, qu'est-ce qu'il a dit, et Michel Rocard.
On l'entend plus. Après l'annonce de ce ralliement, Julien Aubert, député LR, s'est fendu d'un tweet, je le cite, « Ce n'est plus la maison commune, c'est le musée Grévin. »
Ah ben, moi je préférais quand il chantait « Je rêvais d'un autre monde ».
Non, non, Guillaume, on parle de Julien Aubert.
Oui, ben je sais, Cendrillon, c'est 20 ans.
Et pas Jean-Louis Aubert, Julien Aubert, LR.
Je me disais, c'est bizarre, Guigou et Touraine, ça non, je me disais.
Bon, allez, concentrez-vous. Les militants d'Éric Zemmour utilisent le terme ZOZ, Z-O-2-S,
oui,
comme signe de ralliement et comme nom de code pour se reconnaître.
Comment vous avez dit, Charline?
ZOZ.
Attention, hein,
ouais,
attention.
Je sais, c'est pas
attention.
Il y en a qui l'ont morflé pour moins que ça.
Voilà.
François Gros, le co-découvreur de l'ARN messager, est mort.
Eh ben voilà. Eh ben comme par hasard, le vaccin tue. Et Philippe, on n'a pas ses signatures. C'est une dictature sanitaire.
Ce monsieur, le co-découvreur de l'ARN, il est mort à 95 ans. Il était vieux.
Ah ben d'accord, comme par hasard. 95, 9 et 5, ça fait 14. Comme la guerre 14-18.
Mais quel rapport?
Comme par hasard. Vous ne voyez pas le rapport? Bah super,
parce
super.
Il n'y en a pas, évidemment, il n'y a pas de complot.
Ah d'accord, il n'y a pas de complot.
Il n'y a pas de complot.
Donc il faut que j'arrête de crier.
Il faut que j'arrête de crier immédiatement. Voilà, international à présent. La reine Elisabeth II a été testée positive au Covid avec des symptômes légers.
Oui, c'est la perte de goût, hein, principalement.
Vous êtes au courant de ce genre de détails? Comment vous savez ça, vous?
Tenue du week-end, vert pomme et violet, c'est une perte de goût. Ça,
mais c'est vous qui vous moquez des habits des autres, là, je rêve.
Oui. Pardon,
on enchaîne. Des chercheurs new-yorkais ont identifié une nouvelle région du cerveau qui serait impliquée dans la fluidité de la parole, et ce serait le gyrus précentral dorsal.
Ah ouais, mais vu son débit, le cerveau de Walidia sera composé à 95% de gyrus précentral dorsal.
Vous allez pouvoir l'entendre tout à l'heure, c'était pas tant.
Ça compense avec le juste, il est noir. C'est bien.
Ceci, c'est vrai que vous êtes noir, Walid. Il faut le préciser, comme c'est de la radio, on est obligé.
Je vais rentrer en noirie.
Mais je vous aime quand même. Hein.
Ah, mais je sais bien.
L'année dernière, sport au JO, un Finlandais a eu une partie de son pénis gelé durant l'épreuve de ski de fond.
Ouais, c'est le genre d'info qui nous nous fait relativiser la souffrance au travail quand même.
Soyez prudents.
On s'en sort pas mal.
Eh oui, voilà. Bon, c'est là qu'il faut enchaîner avec, oui, avec un sujet un
pénis
peu plus
finlandais,
sérieux.
Pénis finlandais, on enchaîne.
Sujet, méga Javadi, notre invité romancière qui sort à Rennes. Et Juliette qui a un sujet à vous proposer.
Alors, en tête des sujets que les électeurs potentiels voudraient voir traités par les politiques en campagne en ce moment, le pouvoir d'achat. La part du loyer dans le budget des ménages étant en constante progression, le logement devrait donc être un genre de priorité absolue. Alors, selon la Fondation Abbé Pierre, ça n'a pas été du tout le cas pendant le dernier quinquennat et c'est pas parti pour l'être. Heureusement, la télé est là pour faire le travail.
Aujourd'hui, une nouvelle recherche pour Stéphanie Biss, l'agent immobilier le plus coté du moment. Il va aider un jeune couple de Rome à trouver un nouveau logement. C'est devant leur mobile home que Stéphane va les rencontrer.
Alors, vous voulez changer de logement ?
Ouais, c'est trop cher, hein.
Bon, écoutez, vous inquiétez pas, on va chercher, on va trouver, on va vous reloger sans aucun problème. Votre budget, c'est combien ?
Zéro.
J'ai pas compris.
Zéro.
Ah, rien ?
Ouais.
Ah, zéro.
Zéro.
Un budget zéro, par les temps qui courent, on va pas trouver grand-chose, hein ?
Zéro.
Bon, je regarde quand même. Hein, si ? On va trouver, je vous l'avais dit. Alors, c'est pas beau ça, c'est pas somptueux ? 80 mètres carrés de salon, poutre apparente, à l'étage, 5 chambres, une véranda de 48 mètres carrés, 2 salles de bain, 2 toilettes, un grand jardin. Non, je plaisante. Ici, on est chez moi. Je vais juste pisser un coup et on repart tout de suite.
C'était le palmachot, oui, bien sûr. Donc, Négard, la Fondation Abbé Pierre a décompté 300 000 personnes sans domicile, deux fois plus qu'en 2012, plus de 4 millions de mal logés et plus de 22 000 personnes qui vivent dans un lieu de vie informel, squat ou bidonville.
Qu'est-ce que vous avez prévu pour eux ?
Dont un certain nombre dans un quartier que vous connaissez bien et que vous racontez dans le livre « À Rennes ». Est-ce que vous avez entendu, depuis quelques mois, les candidats parler de ce problème du logement ?
Non.
Du mal logement ?
Non, du tout. Non, mais il paraît qu'ils en parlent, ou que c'est une priorité. Je me rappelle qu'en 2017, c'était déjà la même chose. On disait, il y a les candidats qui ne parlent pas de logement. Et puis avant, c'était François Hollande qui voulait faire une sorte de commission qui garantirait les prix du loyer, etc. Non, je n'ai pas entendu parler, mais peut-être ça va venir. On a quelques semaines.
Et justement, vous qui vivez dans un quartier où il y a quand même une concentration de gens plus ou moins mal logés, est-ce que vous voyez les conséquences que ça a sur les gens et sur leurs relations entre eux les uns avec les autres ?
En fait, pas tant que ça sur les relations entre les uns avec les autres, mais je vois plein de gens dehors. En fait, c'est ça aussi. Hein. C'est-à-dire, c'est des quartiers où les enfants sont dehors, les familles sont dehors, on fait plein de choses dehors. Ce qui paraît un peu le Moyen-Orient, comme ça, on a l'impression d'être... Mais c'est parce qu'on n'est pas bien logé non plus. Hein. On va pas rester à 6-7 dans 30 mètres carrés. Et puis parfois, il y a... C'est mal isolé, c'est très mal isolé, le chauffage, les fenêtres, voilà. Donc, ça crée autre chose dans le quartier, ça crée une autre manière de vivre. Ça, c'est vrai.
Ok, mais ça veut dire aussi passer plus de temps dehors, comme ouais. Alors pour les auditeurs ou les auditrices qui ne le savent pas, mais c'est aussi le quartier que vous décrivez, c'est aussi un des quartiers où il y a le plus de camps de migrants, donc c'est aussi voir...
Alors, il y a ça, il y a toujours ce côté, et il n'y a pas que le camp... Maintenant, il y a beaucoup moins de camps de migrants, parce que ça a été quand même démantelé de façon assez sauvage à 6h du matin.
Ou oh, avec
mais...
un petit cutter.
Il y avait tout, hein. Il y avait le quartier, il y avait plein de policiers à 5h du matin, mais il y a beaucoup de drogue. Donc, il y a beaucoup de gens dehors, toute la nuit. Et vers Stalingrad, surtout, il y a ça. Et puis, il y a aussi énormément de gens qui sont drogués et qui dorment ici ou là, même sous les boîtes aux lettres, par exemple chez moi. Parfois, on découvre des gens qui sont... Voilà. Donc, il y a une drôle d'ambiance niveau logement, mais comment dire... Alors après, on fait des logements sociaux, mais il y a plein de catégories de gens, le temps que les dossiers avancent, ça je le vois aussi dans le quartier, parce qu'il y a des gens qui font des demandes de logements sociaux, mais le temps que des dossiers avancent, ça y est, ils sont vieux. Alors quand on est jeune, on est vieux, on a des enfants déjà quand ça avance. Et voilà, il y a quand même, ça se grippe un peu aussi de... Il y a des logements sociaux, le quartier en est plein, mais qui les a ? Ça, on ne sait pas. Comment avancent les dossiers, ça, on ne sait pas.
On va parler d'identité du logement social. Et là, on en parlerait beaucoup sur Négard, j'avais dit.
Walidia est dans la place, vous avez compris. Attention, ouvrez vos esgourdes, parce que ça canarde dans tous les sens, Wally.
Alors, ils sont en forme, mes grands remplacistes poutinophobes, idées indigènes, éoliens. Hein, ce week-end, j'étais en train d'écrire la chronique, j'étais parti sur l'évolution du paradigme de notre cosmosystème anthropocentrique. Et je me suis perdu dans les labs d'Internet. Tu sais, je fais la descente classique, tu fais Wikipédia, Hotmail, MSN Actu, Pure People, Pornhub, Combini. Et je suis tombé sur la vidéo d'un journaliste qui a infiltré le parti d'Éric Zemmour, et là, il a découvert un truc incroyable. Il y a des racistes dedans. Et lui, il va à Disneyland, il découvre que dans Mickey, il y a un intermittent, il appelle Gallimard pour faire un livre. Tu pensais croiser qui chez Zemmour, en fait? Bilal Hassani? T'as cru qu'il allait apparaître entre deux néo-nazis? Bonsoir Paris! Non, non. Alors qu'en vrai, bon, je comprends, un juif originaire d'Algérie qui s'entoure de nostalgiques du Führer, c'est audacieux. C'est comme si moi, mon attaché de presse, c'était un ancien du Ku Klux Klan. Tu vois, non, mais t'inquiète, j'ai changé. Ouais, 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 bah, pas de geste brusque, hein, s'il te plaît. Mais ouais, si un journaliste, et on a encore à découvrir que Zemmour est xénophobe 7e dan, je me suis dit, laisse tomber le paradigme anthropocentrique, faut rappeler les bases. Donc, je me suis permis de faire un petit résumé des projets politique à notre disposition. Donc Zemmour, c'est favoriser les riches, virer les musulmans et les migrants, grand remplacement, on a peur, et si tu tues toute la journée, on dirait un week-end chez Orpea. Marine Le Pen, c'est favoriser les riches, virer les musulmans et les migrants, mais avec un peu de tendresse. Hein, voilà. Elle est toujours aussi raciste, mais elle a mis de l'encens et des photos de chats dans le QG de la campagne. C'est la fameuse dédiabolisation. Hein. Dans le jargon, on appelle ça de coup de fébraise après la gastro. Valérie Pécresse, elle, elle sait pas vraiment ce qu'elle veut. C'est genre rester riche, virer les migrants, favoriser et privatiser les musulmans. On va s'y retrouver. Bah, Valérie Pécresse, c'est le paroxysme de la vacuité au service de l'insignifiance. C'est du CO2 émis pour rien, vraiment. Et là, on arrive à un poil plus technique, Emmanuel Macron. Alors lui, c'est favoriser les riches, interdire la moindre activité aux musulmans et virer les migrants en faisant semblant de les aider. Hein, c'est bon, on dirait du McKinsey. Et il nous fait des beaux discours de solidarité pendant que Darmanin interdit la distribution de nourriture aux réfugiés. Les derniers qu'on a empêchés de manger comme ça, c'était les pigeons. Hein, d'accord. Nourrir les pigeons, c'est passible de 68 euros d'amende. Nourrir un migrant, c'est 135 euros d'amende. Hein, la prochaine fois que quelqu'un dira que la France est le pays des droits de l'homme, vous avez le droit de vomir, mais pas à côté d'un migrant, sinon il verbalise. Et après, bon, un pigeon qui chie sur ton pare-brise, c'est moins grave que si c'est un migrant. C'est vrai. Bon, en même temps, si tu vois un migrant accroupi sur une branche, t'es pas obligé de te garer en dessous. Ouais. La suite, Mélenchon, lui, c'est lutter contre la précarité, renforcer les services publics, assurer la transition écologique, ou pas. C'est ça le problème avec Mélenchon, c'est qu'au dernier moment, il peut vriller. Mélenchon, c'est un bébé à qui tu donnes un Uzi, tu vois, il est mignon, mais s'il se tend, il redécore la pièce. Après, on a les figurants, donc je vais faire rapide. On a Yannick Jadot, qui est à peu près aussi inspirant qu'un sac plastique. Hein, il pourrait déclarer que pour éviter la surpopulation, faut manger les enfants, ça ferait sursauter personne, tellement on ne calcule pas. C'est pas un candidat, c'est un bruit de fond. On dirait le bruit du frigo la nuit, si t'es trop près, c'est chiant. Voilà. On enchaîne avec Fabien Roussel, hein, qui selon Mediapart a réussi l'exploit d'atteindre le stade de rend l'argent avant les candidats de droite. C'est une belle paire, on n'a pas vu ça depuis Cahuzac. Christiane Taubira, bon, pour pouvoir critiquer son programme, faudrait qu'elle en écrive un. Hein, c'est le problème des élèves avec des facilités. Le jour de l'examen, ils y vont avec le talent. Tu vois, c'est qu'est-ce que l'audace, ça passe pas à chaque fois. C'est ça le problème. Bah, les poèmes, c'est bien si tu vises un featuring avec Grand Corps Malade, quoi, mais pas la présidence. C'est pas avec les Alexandrins qu'elle va rembourser les frais de campagne. En parlant de remboursement de campagne, Hidalgo s'est plié, c'est elle qui paye. Hein, c'est bon, elle est à 1,5. Même Jean Lassalle qui baragouine tellement qu'on comprend pas ce qu'il dit, il fait 1,5 aussi. Hidalgo, c'est l'inverse, elle fait 1,5 parce qu'on comprend ce qu'elle dit. C'est ça le souci. Il y a d'autres candidats après, mais j'ai que 3 minutes. Hein, c'est le temps de parole mensuel du candidat Anas Kazib, d'ailleurs, 3 minutes. Hein, à la télé, t'as plus vu Olivier de Carglass que lui. Mais bon, malgré tout ce panel, on est toujours 13 millions de non-inscrits sur les listes électorales. Si ne serait-ce qu'un tiers d'entre eux s'inscrivaient, ça déclencherait une panique, ça ferait fondre les instituts de sondage, les nouveaux inscrits ressentiraient des petites léchouilles au niveau de l'entrejambe, ce serait magnifique. Si par exemple, il y avait une inscription massive dans les quartiers, ils ressortiraient le quartier, mais ce serait pour nettoyer les murs, pas les gens. Donc, profitez-en. Hein. Maintenant, il reste 10 jours pour s'inscrire parce qu'ils demandent notre avis une fois tous les 5 ans. Et après, ils n'écoutent plus.
Walidia, bravo pour ce bel équilibre, parce qu'ils y sont tous passés. Tous. Et ça, gardez cette technique pour le dur de la campagne quand le CSA va décrocher le chronomètre. Walidia, qu'on peut retrouver le 3 mars au Luxembourg et le 9 mars à Dijon pour votre spectacle Ensemble ou Rien.
C'est tout à fait vrai.
Eh oui. Bon, il parle en respirant un petit peu, parce que comme le spectacle dure 1h45, sinon il y a une apoplexie derrière. La la la. My friend Sally says she knows you. Got a funny point of view. Says you got away with murder. Maybe once or maybe two. Something happens in the morning. When I can't see those failing eyes, I can't find. Fontaine D.C. qui chante Jackie Down the Line sur France Inter. Vous écoutez Par Jupiter, une émission qui reçoit aujourd'hui Negar Djawadi, écrivaine, scénariste, réalisatrice, qui nous propose son dernier roman paru en version poche chez Liana Levy. Ça s'intitule Arène et Clara Dupont-Monod va nous en reparler dans un instant. Avant cela, Negar, je ne sais pas si vous connaissez Guillaume Meurice, mais lui aussi crapahute dans les rues de Paris.
Ouais, et je vais vous parler de Fabien Roussel, évidemment. Aujourd'hui, le candidat communiste aux élections présidentielles. Le communisme, ça y est, le communisme, vous connaissez comme Lénine, Trotsky, Georges Marchais, Robert Hue, Fabien Roussel. Un peu l'impression de regarder un accident de bagnole au ralenti. Pénélope Roussel, comme on l'appelle désormais, qui est donc accusé par Mediapart d'avoir occupé un emploi fictif à l'Assemblée nationale. Il a vraiment toute la panoplie du mec de droite. Après la manif de flics, les débats sur la bouffe à la française, la prochaine étape, bah, c'est la mairie de Levallois-Perret, normalement pour lui. Le petit pull en cachemire sur les épaules et les messages d'insultes en commentaire sous les vidéos de Walidia. La panoplie complète de droite. J'ajouterais peut-être à ça l'admiration de Clara Dupont-Monod. La droite, quoi. Vraiment toute la droite. Et d'ailleurs, Fabien, c'est le chouchou des médias. On le voit partout. Même Finkielkraut dit du bien de Fabien Roussel. On n'est pas tout à fait sûr parce que il a vomi dans sa soupe, en fait, et ça a fait un bruit genre, j'aime Fabien Roussel. Voilà. Mais on peut admettre qu'il aime Fabien Roussel. Mais alors, est-ce que le peuple aime Fabien Roussel malgré cette accusation? Je suis allé vérifier ça ce matin. Est-ce que les gens déjà aiment Mediapart?
C'est un remarquable journal, Mediapart. Mais comme j'aime pas la merde, je ne l'achète pas.
Voilà, alors il faudrait demander à Laëlia Véron ce que c'est comme figure de style, c'est une sorte de litote scatologique, je ne sais pas. Et continuons dans la thématique.
Mediapart, ils cherchent toutes les merdes qui traînent, mais...
Pourtant, ils ont sorti des vraies affaires, non?
Ils font Mediapart, de toute façon, ça ne m'intéresse pas.
Ouais.
Bon, c'est la littérature de caniveau, de bas niveau.
Je veux pas m'avancer, mais je crois qu'il aime pas trop Mediapart. C'est pas son délire, hein. C'est pas le délire du monsieur. Il fait partie certainement de l'amicale des amis de Gérard Darmon. À mon avis, c'est même un des plus radicalisés de la bande. Sauf quand même quand il sort des affaires qui l'arrangent, comme par exemple l'affaire Fillon, bien évidemment.
Fillon, il n'a eu que ce qu'il méritait.
Ah, Fillon, c'est bon, mais non, Roussel, mais
attendez,
non.
Je me fous de Mediapart. On parle de Fillon ou pas?
Non, j'essaie de voir Fillon, il mérite, mais Roussel mérite.
Oui, moi, c'est bien évident.
Mais c'est bien, bien évident. Moi, je suis d'accord, hein. Moi, je suis d'accord. On choisit qui mérite ou pas. D'ailleurs, je fais pas trop le malin parce que moi, je suis candidat. Je vous rappelle. Et je sais qu'il prépare un truc sur moi, Mediapart. Je sais que, soi-disant, j'ai repris deux fois des blettes à la cantine en me faisant passer pour Nagui. Franchement, ça tient pas. Nagui à la cantine de Radio France, ça ne tient pas du tout. C'est de la science-fiction, cette histoire. Faut pas exagérer. Allez, on continue à soutenir Fabien.
Il est toujours étonnant de voir que ces affaires sortent dans des moments cruciaux pour la France.
Alors ça serait quoi? Ça serait une cabale?
Je pense que certains se frottent les mains si les communistes ont moins que ce qu'on aurait aimé.
Mais ils sont dangereux les communistes à ce point-là?
Je ne sais pas.
Ah là 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 là, on ne sait pas. C'est ça qui tout laisse à penser que Mediapart roule pour Philippe Poutou. Vous avez déjà vu une enquête de Mediapart sur Philippe Poutou? Pourtant il y en a des choses à dire sur Philippe Poutou, il me semble. Il volait des clés à molette, moi je peux vous le dire, hein, dans son usine Ford à Blanquefort. C'est vraiment pas clair du tout. Alors évidemment, pour des broutilles, on veut tuer Roussel parce que ah, c'est son concurrent direct, tout simplement.
Bon, ce sont pas des sommes énormes et...
3000 euros par mois, là.
Ouais.
Sans rien faire, ouais.
Il doit payer des impôts là-dessus, non?
Oui, c'est vrai qu'il a peut-être partagé l'argent qu'il a touché sans rien faire.
Oui, c'est un peu dommage.
Ouais, moi aussi, c'est un peu dommage. Je trouve ça dommage parce qu'il faisait une belle campagne jusqu'ici, Fabien Roussel. Pas mal aidé par Boucherie Magazine. Parce que c'est vrai qu'il parlait de viande à peu près à chaque interview. C'est vrai qu'il était au top. Il était un petit peu pour une internationale de l'entrecôte. Il voulait également remettre la France au travail parce que le communisme, c'est le productivisme.
On est dans un pays où on veut tout gratos, quoi. Et que les gens veulent les assister. C'est ça qui va pas.
Oui, bien justement, est-ce que Fabien Roussel, c'était pas un assisté, là?
Vous me prenez dans une dialectique, et là, je ne peux dire qu'une chose, c'est que vous avez peut-être raison.
Je pose la question, mais la dialectique, c'est davantage Marx et Hegel. Hein. Moi, je suis un peu plus proche de Bozo le clown, quand même, sur la dialectique. Mais allez, il est temps de conclure avec un autre soutien de Fabien.
Bah, écoutez, c'est bien, il a les paroles de Georges Marchais de l'époque. Il est en fait contre l'immigration. Et l'anti-wokisme, je trouve que c'est plutôt bien.
Il est anti-woke, vous savez?
Ah oui, il est anti-woke.
Vous aussi?
Moi, oui.
Qu'est-ce que c'est, les woke?
Le wokisme, c'est se taire. C'est l'homme et la femme. On essaye de trouver des inégalités entre les deux.
Les inégalités, elles existent?
Entre eux.
Entre les hommes et les femmes?
Non.
Non, j'avais oublié, des fois j'ai des questions à la con. J'avais oublié que non. J'avais aussi oublié que le communisme avait bien changé. Que désormais, il était de droite. D'ailleurs, le nouveau slogan de Fabien Roussel n'est pas « partager l'argent », mais « rend l'argent voilà. ».
Guillaume Meurice, merci Guillaume. On va aborder un sujet que vous avez choisi, Negar Javadi. De nombreux reportages ont permis de faire le bilan des 6 premiers mois des talibans au pouvoir en Afghanistan. Et le bilan est mitigé. sauf en termes de souffrance, de persécution, voire de décapitation, où ils affichent d'excellents résultats. Alors nous, qu'est-ce qu'on peut faire à part s'informer quand il nous reste la force de ne pas détourner le regard, bien sûr.
Maintenant qu'il n'y a vraiment plus rien à perdre, vous voulez bien l'inviter à Zadeh Anwari?
Qui?
Mon afghane.
Ah non, Hélène, écoute, tu vas pas recommencer. Moi, je pense que c'est pas belle.
Est-ce qu'elle a du bon shit d'abord?
Monde.
Non, mais franchement, putain. Qu'est-ce que tu veux que ton afghane aille foutre dans mon émission? Tu crois que ça l'intéresse, le public? Le public, il en a marre de la misère du monde. Le public, il veut du pain et des jeux. T'es pas au courant?
C'est Agnès Jaoui, Léa Drucker et Jean-Pierre Macri dans le film Place publique, bien sûr. Alors, vous avez choisi ce sujet. Qu'est-ce que vous cherchez à exprimer, Negar Javadi, sur ce sujet qui est tellement dur?
Je ne sais pas ce que je cherche à exprimer. Je me dis que je m'en remets pas, en fait, dès qu'on est donné comme ça, ce pays à des serial killers. Parce que moi, je le vois comme tel. Donc, on a lâché ces gens au milieu et puis on leur a dit, maintenant, fuyez. On vous donne des avions, accrochez-vous à des barbelés.
Et encore.
Et c'est ça, en fait, je trouve ça assez hallucinant qu'au bout de 20 ans, on en arrive à saison 2, les talibans saison 2, voilà, c'est d'accord, vrai. Voilà. Et ça y est, ils sont là, ils sont à côté de l'Iran, qui est très content, qui déjà savait bien en avance que les tractations étaient faites. Et puis, dans le même temps, on nous parle de Zemmour, on nous parle des migrants, et ils arrivent ici, ils sont trop là, voilà.
Justement, tout ça résonne avec votre histoire familiale aussi. Vous êtes née à Téhéran. Votre papa écrivait des articles,
voilà.
On va dire subversifs pour le régime. Voilà. Et puis vous avez connu la migration à travers les montagnes kurdistanes, c'est ça?
Oui. Et puis l'extrémisme, et puis l'islamisme extrême, et puis les femmes qu'on met. Les femmes qui ne doivent plus travailler, qui ne doivent plus se maquiller, qui doivent devenir des épouses, faire des enfants. Donc tout ça qu'on impose à un peuple à nouveau, alors c'est abominable. Et nous, on n'en fait rien, on le savait. C'était les Américains qui l'ont fait peut-être, c'était Trump qui a donné, mais l'Europe n'a rien fait pendant ce temps. Et on est spectateur d'une boucherie absolument abominable. Voilà.
Et vous qui êtes romancière et scénariste, vous arrivez à renouveler les mots et à mettre des mots là-dessus pour éviter la banalisation ou...
Sans doute que non, mais en fait, ce que je pourrais éviter peut-être, parce que je suis née en Iran, c'est l'expliquer. C'est en fait expliquer à quel point ça peut être abominable et que c'est pas rien, c'est pas un peuple afghan qui veut ça, comme on a dit des Iraniens. Les Iraniens veulent l'islam, veulent ce gouvernement, mais c'est pas vrai. En fait, c'est de la politique, c'est des tractations, c'est des gens qui se réunissent, c'est des pays qui sont extrêmement riches, il y a le pétrole, il y a le gaz, voilà, il y a énormément d'intérêts qui dépassent le peuple, c'est pas le peuple qui veut ça. Et après, ce qui est assez drôle aussi, c'est que, comme avec les Iraniens, où j'ai le souvenir de Fabius, disons, de Rouhani, le président Rouhani, le président iranien, c'est un modéré, c'est de dire, soudain, les talibans sont modérés. Alors là, ça vient comme ça, c'est une sorte de novlangue qui nous arrive depuis quelques mois, où les talibans ont changé, ils sont modérés, ils sont inclusifs même.
Oui, bien sûr.
Voilà
oui,
les mots qu'on utilise. Voilà. Donc,
ils sont woke.
Voilà. Ouais, ils sont
modérés, ils coupent un bras au lieu de deux.
Voilà, effectivement.
Negar Javadi, je ne vous présente pas Clara Dupont-Monod. Qui a lu votre ouvrage « Arène ».
Et oui, l'actualité, c'est vous, Negar Javadi, et donc votre roman choral intitulé « Arène ». Que je montre. Alors, vous avez campé une brouette...
Vous avez raison, c'est la radio.
Non, parce qu'il y a un peu de caméra. Vous avez campé une brouette de personnages dans un Paris, alors, complètement anti-carte postale, qui pourrait être le cauchemar de Anne Hidalgo. C'est le Paris populaire, avec des bar-tabac plutôt que des biocopes, sans pistes cyclables, l'horreur. Un Paris abandonné et plutôt violent. Mais la majorité de vos personnages ont deux points communs. Le premier, il a été mentionné par Juliette tout à l'heure, c'est la zone géographique dans laquelle ils habitent. Et le deuxième point commun, il est en forme de question qui serait « Comment trouver ma place ?» Question essentielle qui irrigue nos vies, trouver sa place dans un groupe, dans une famille, au travail, dans un nouveau pays qui n'est pas son pays natal, dans une classe quand on est petit, ou quand on est grand, sa place dans une émission de radio du service public à tendance gauchisante, alors qu'on aime la haute joaillerie. Gageur. Alors, juste un exemple. Votre personnage principal, il s'appelle Benjamin, il vient d'une cité du 10e arrondissement. Or, il est devenu riche, il produit des séries télé, il discute avec les patrons de la Silicon Valley, et pourtant, somnole en lui un sentiment d'imposture, quelque chose d'un peu illégitime. Il doit régulièrement reprendre confiance en lui pour affirmer sa place. Et dans ces cas-là, il se dit, je cite, « Qu'est-ce qui te prend enfin ? Tu es responsable du développement de la branche française de Bicurrent. Tu tutoies Nathalie Portman, Rami Malek. Ressaisis-toi, voyons, et tiens-toi droit. » Tiens-toi droit et oublie ta place originelle, celle d'un enfant de la cité. Il y a un autre personnage dans votre livre qui est soumis à la même question de la place, c'est une policière. Elle s'appelle Sam et elle aime profondément son métier qui consiste pour elle à aider les gens. Mais elle constate, en parlant des policiers, dans cette histoire, tout le monde les déteste, eux les représentants visibles d'un État aux abonnés absents. Son erreur, erreur énorme qui fait basculer l'intrigue, elle la commet parce qu'à un moment, un collègue la regarde et lui fait comprendre qu'elle n'est pas à sa place. Qu'un petit bout de femme comme elle, elle n'a rien à faire là, que sa présence est déplacée dans les rangs policiers. Donc Sam panique et elle commet une faute. Et c'est pareil pour Benjamin. On lui vole son portable et l'idée même qu'on le traite comme une proie alors qu'il est devenu prédateur, qu'on le déplace vers le bas, l'idée même qu'on le rabaisse au rang de dominé, ça le rend dingue, et il commet une faute. Donc vous voyez, chaque fois, leur place étant menacée, fragilisée, ces deux personnages deviennent fous, la perte de leur place génère celle de leur tête. Et même le quartier est à cette image. Ce Paris dont je parlais au début, c'est un Paris qui n'a pas sa place dans les dépliants touristiques. La description que vous faites des migrants qui s'installent en bordure du canal Saint-Martin, c'est exactement ça. C'est une façon pour eux de marquer leur place, au sens littéral et symbolique. Les tentes quechua, elles griffent le visage d'une ville idéale. Ça, c'est pour le côté littéral. Et le côté symbolique, c'est que la détresse affirme sa place dans une ville qui ne lui en donne pas. Alors après, il se trouve que vous avez choisi comme titre de votre livre un nom de lieu à Rennes. Et ça, c'est quoi? C'est un emplacement. C'est un peu comme si, avec ce titre, vous donniez la réponse à vos personnages. Votre place, elle est là, dans un lieu où l'on se combat, où l'on meurt, parfois. Alors, bon, c'est sûr que si vous l'aviez appelé Pergola ou Solarium, il y aurait eu un peu plus de, non mais, un peu plus d'espoir. Mais à Rennes, non mais, à Rennes, ça résout le mystère. Là, voilà votre place, voici vos armes et que le meilleur gagne. Je vous redonne les références. À Rennes de Negar Djavadi est paru chez Liana Levy en collection Piccolo.
Merci Clara Dupont-Mono, merci
mais
beaucoup.
Merci, mais incroyable.
Mais oui, vous savez, c'est... Oui, il est recommandé ce roman, bien sûr. Abordons cet autre thème, les pays arabes qui censurent beaucoup de films se font filouter par les plateformes, justement, dont Netflix, qui produisent des séries en langue arabe en développant des sujets tabous. Attention, homosexualité, infidélité, ou pire, une fille qui se confie à son père à propos de sa première relation sexuelle. Terrible.
Dallas, chez nous, comme ils ont enlevé tous les baisers, les scènes de rencontre entre les hommes et les femmes, la piscine et tout ça, eh ben les acteurs de Dallas, ils font que travailler. Ils ont gardé que les horaires administratifs. Alors on voit par exemple JR, il est là, il travaille. Ça marche bien et tout. À 6h, il a rendez-vous avec Sue Ellen. Ils l'ont enlevé, on la voit pas, mais on le sait. Alors à 6h moins qu'il se lève, il est heureux, il met sa veste, il va rejoindre Sue Ellen et hop, il revient au travail.
Ce Fellag et son sketch La Censure, tiré de son spectacle Jurassic Blend. Article paru dans Télérama ou via le Courrier International qui nous explique donc que les plateformes, Netflix mais d'autres, produisent des séries où les les mœurs sont plus évolutives et plus légères dans les séries en langue arabe. Vous qui avez un peu la dent dure sur à propos des plateformes, quand on voit qu'en Jordanie, en Égypte ou au Liban, cette révolution-là, elle passe par ces plateformes. Qu'en pensez-vous ?
Non, je n'ai pas vraiment la dent dure, puisque je travaille, je suis scénariste, donc je serais mal placée. Mais en même temps, c'est une interrogation sur les plateformes. En fait, c'est la manière dont on raconte les histoires qui imprègne un peu notre réalité. C'est ça, c'est qu'on est tellement branché sur ces plateformes qu'au final, en fait, on voudrait que la réalité ressemble à ces séries qu'on voit, que tout soit aussi facile ou que les gens soient aussi manichéens, etc. Donc c'est plutôt ça. Mais en même temps, bien sûr, ça passe par là et sur ces plateformes, ça permet quand même de parler des pour les pays arabes, entre autres, et même la Turquie en fait beaucoup des séries. Ouais. Hein, donc ça permet de révéler des choses, de montrer des choses, l'homosexualité, les infidélités, etc. Mais de là à ce que la société suive ça, bon, il faut... Ouais.
Juliette ?
Oui, vous avez commencé en disant que vous n'aviez pas une vision si dure sur ces plateformes. Alors, je vous cite.
Attends, je suis mise au piège.
C'est pas du tout un piège, mais vous faites parler la patronne mondiale de BeCurrent et elle dit la chose suivante, c'est malheureux à dire, mais toutes ces catastrophes et ces crises, c'est très bon pour nous. Depuis toujours, les gens se consolent de leur malheur avec des histoires. Ce qui a le mérite d'être vrai. Sauf que elle gagne des millions et des millions, voire des milliards de dollars avec ça, et on le diffuse parce que c'est diffusé dans le monde entier. Ce sont des histoires qui sont fabriquées de manière à ce qu'elles plaisent à tout le monde.
Lucratif, quoi.
C'est ça, absolument. D'ailleurs, Barack Obama, qui a eu le prix Nobel de la paix, quand même travaille pour Netflix avec une boîte de prod au lieu de parler d'Afghanistan. Donc, c'est dire à quel point...
C'est vrai que Obama et l'Afghanistan plus prix Nobel dans la même phrase, c'est déjà
donc... non, mais en même temps, c'est vrai qu'on est quand même dans une société d'émotions. Hein. Donc, les plateformes en profitent, mais les chaînes d'infos en continu en profitent. En fait, tout est émotion. Donc,
en fait, ce qui vous dérange le plus, c'est pas tant l'abondance des fictions, parce que ça, c'est pas vous, effectivement, que ce soit scénariste ou romancière, c'est pas une chose qui vous dérange. En revanche, c'est la manière, enfin, c'est le traitement à chaque fois, c'est-à-dire d'user la corde de la sensibilité, de l'émotion assez un peu facile.
Non, mais l'abondance me dérange dans la mesure où on ne regarde plus rien. Donc dans ce sens-là, oui, parce qu'il y en a tellement et on veut tellement les voir que finalement on lève plus le regard sur le monde et on est scotché. Alors moi, ça va, vu l'âge que j'ai, je regarde le monde, mais je pense aussi aux jeunes qui sont scotchés sur ces plateformes et qui ne regardent plus le monde en fait. Donc pendant ce temps, on fait ce qu'on veut. Les dirigeants font ce qu'ils veulent.
Alors Negar Javadi, Juliette Arnaud va enchaîner avec un questionnaire de Parjupi Proust qu'elle a préparé pour vous.
Sur l'échelle qui va de 0 à 10, des titres de romans réduits au minimum, et qui va, donc, 10 étant l'emoji MDR mort de rire en guise de titre par Frédéric Becbédé, et 0 étant La vie et les aventures étranges et surprenantes de Robinson Crusoe et de York Marin qui vécut 28 ans sur une île déserte sur la côte de l'Amérique, dans l'embouchure du grand fleuve Onéroc, à la suite d'un naufrage où tous périrent à l'exception de lui-même, et comment il fut délivré d'une manière tout aussi étrange par des pirates, écrit par lui-même. Daniel Defoe. Je suis très fatiguée. À combien estimez-vous Arène ?
Alors, on va oublier la question. Passez à la suivante.
Sur l'échelle des auteurs iraniens les plus connus en France, 10 étant Marjane Satrapi, la célèbre autrice de Persepolis, 0 étant Riyad Satouf parce qu'il n'est pas iranien. À combien vous situez-vous ?
Eh ben moi je suis moyennement iranienne aussi, mais donc je sais pas, moi beaucoup moins que Marjane Satrapi en tout cas, ça
moins,
c'est sûr.
Donc
beaucoup
4,
moins, oui. Ok. Riyad Satouf, je suis pas.
Vous devez choisir une chanson sur Paris comme bande originale de votre roman. Alors, vous choisissez entre Il est 5h, Paris s'éveille, À Paris en vélo on dépasse les autos, ou Paris sous les bombes. Tout l'album d'NTM.
Non, il est Paris s'éveille.
Paris s'éveille. Plus joyeux. Si vous pouviez faire un Paris-Téhéran 7h30 de vol avec un candidat à la présidentielle, ça serait aux côtés de qui ?
Mais je veux pas aller à Téhéran, c'est ça le problème. Je veux pas retourner à Téhéran.
Si vous pouvez en envoyer un.
Si vous pouviez aller à Bruxelles.
Vous en envoyez un.
Alors, à Paris-Bruxelles.
Alors allons à Bruxelles. Vous le faites avec qui ?
Avec qui ? Avec Anne Hidalgo pour lui dire de se retirer. pour la convaincre.
Après, si vous aviez dit Emmanuel Macron, peut-être qu'il y avait moyen d'arriver jusqu'à l'aéroport.
Quel roman voudriez-vous adapter en série avec un budget illimité ? C'est moi qui le donne.
Le démon de Selby.
Oh, comme dans Arène.
Ouais.
Très bien. Dernière question. De quelle série vous aimeriez écrire la suite, Les Sopranos, Plus belle la vie ou La campagne de Christiane Taubira?
Bah, Soprano,
allez. Negar Djawadi, merci infiniment d'avoir passé cette heure avec nous. On était heureux de vous rencontrer et encore plus heureux de lire Arène, paru dans la collection Piccolo de Liana Lévy. Merci infiniment.
Merci à vous.
Merci les amis dans ce studio. C'est la fin de l'émission. Je vous dis à demain. Nous recevrons une jeune actrice, Déborah Lukumuena, pour un film dans lequel elle est en duo avec Gérard Depardieu. Fou, là, là.
Une petite très courageuse qui a toujours fait face à l'adversité avec beaucoup de dignité.
Ça oui, ça oui.